Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci pour la confiance renouvelée de nous recevoir chez vous à travers les ondes de nos 85 radios partenaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. L'inscription volontaire sur les listes électorales fait partie des recommandations du dialogue intermalien. Selon le comité de pilotage du dialogue, l'objectif est d'amener beaucoup plus de Maliens à voter lors des élections à venir. Nombreux sont les mendiants qui sillonnent les grandes artères et les trottoirs pour quémander le pain quotidien. Quels sont les dangers liés à la pratique et comment y mettre fin? Des éléments de réponse dans ce journal. À moins de 3 semaines des examens du DEF, diplôme d'études fondamentales, les révisions ont déjà commencé dans certains établissements. Toutefois, des candidats se disent inquiets des coupures d'électricité. C'est le sujet de votre rubrique dossier de la semaine. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Mirana Kilomega, la mise en note Mamadou Ouattara. Instituer l'inscription volontaire sur les listes électorales, c'est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Cette proposition vise, selon le comité de pilotage du dialogue, à susciter la participation de nombreux Maliens au vote dans les élections à venir. Moussa Malé Sissoko.
Les participants au dialogue intermalien ont réclamé la création des circonscriptions électorales pour les Maliens établis à l'extérieur. Ils ont demandé l'opérationnalisation des coordinations de l'EGE, autorité indépendante de gestion des élections dans les nouvelles régions. Les délégués ont recommandé d'instituer l'inscription volontaire des Maliens sur les listes électorales en vue de mieux organiser les élections à venir. Les participants ont jugé nécessaire de procéder au recensement des Maliens établis à l'extérieur. Ils ont souhaité également la prise en compte dans les listes électorales, les réfugiés, les déplacés internes ainsi que des nouveaux majeurs. Dans ce rapport, un accent particulier a été mis sur la formation des citoyens maliens au respect des symboles de l'État et des biens publics. L'esprit de civisme et de patriotisme chez les jeunes ont été prônés par les délégués. Par ailleurs, le dialogue a recommandé d'interdire aux chefs religieux, aux chefs de village, des fractions et des quartiers, ainsi qu'aux responsables des organisations de la société civile, de s'engager dans le militantisme politique.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Le phénomène de la mendicité s'amplifie de jour en jour à Bamako et dans les grandes et dans les capitales régionales. Des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards, ces mendiants se promènent quotidiennement sur les grandes artères et les trottoirs pour demander quels sont les dangers liés à la pratique et comment y mettre fin. Des éléments de réponse dans ce reportage de Intala Akbilal.
La mendicité est une pratique interdite en islam, mais pour l'islamologue Alassane Ba, pour mettre fin à ces phénomènes culturels ancrés dans la société, il faut en plus des textes mettre en place une politique nationale d'accompagnement des mendiants.
Toute autorité sérieuse doit prendre des mesures fortes vis-à-vis de ces phénomènes. Et il s'agit de mettre en place des garde-fous et des politiques de réinsertion pour les pratiquants qui sont ancrés dedans.
De Tombouctou à Mopti, en passant par Sikasso et Kaï, les avis divers sur la nécessité de cette interdiction. Si pour certains, cette pratique apprend aux enfants des principes de bonne conduite dans la société, pour d'autres, elle n'enseigne aujourd'hui aux enfants que la délinquance et le banditisme.
Parfois, ces mendiants, ils sont radicalisés et de façon très rapide et ils sont enrôlés. Que ces enfants, quand ils grandissent, ils peuvent être des grands bandits.
La mendicité là ne peut pas finir maintenant, même après 1000 années.
Mais au Mali, on n'a pas le choix parce que tout le monde est pauvre. On est obligé de demander ce qu'on n'a pas. Tout le monde est presque mendiant.
Pour le sociologue Tchéfing Sissoko, avant l'interdiction pure et simple de cette pratique, les autorités doivent prendre en amont des mesures de réinsertion de ces enfants dont elles constituent la seule source de revenus.
Une décision qui interdirait la mendicité au Mali est une bonne chose si des stratégies sont immédiatement engagées et d'ailleurs en amont pour accueillir les enfants, pour les mettre dans des institutions.
Il faut rappeler que la mendicité est officiellement interdite au Mali par le code pénal dans ses articles 184 et 193. Elle est punissable de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement, mais malgré cette loi, le phénomène prend toujours de l'ampleur.
Direction Massina, où deux bergers ont tué un troupeau de bœufs volés le 12 mai dernier vers le village de Kara dans l'interfleuve commune de Massina. Selon des habitants, cet acte serait commis par des hommes armés non identifiés qui dictent leur loi dans la zone. Ils interpellent les autorités à tout mettre en œuvre pour sécuriser la zone.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales sont prévues du 3 au 5 juin prochain. À moins de 3 semaines de cet examen, les révisions ont déjà commencé dans certains établissements. Les candidats se regroupent en classe ou dans les familles pour exercer et traiter les anciens sujets. Toutefois, ils se disent inquiets face aux coupures d'électricité. Alors, quelles sont les dispositions prises par les parents et l'administration scolaire pour accompagner ces élèves? Maman Baba Kunta et Fantachek Sanogo se sont intéressés au sujet.
Je suis une redoublante. Cette année, ça sera ma 4e fois. Mais je pense que je suis prête pour cette année et que je vais réussir cette année, Inch'Allah.
Comme cette candidate, nombreux sont les élèves qui ont commencé les révisions. Certains d'entre eux sont à leur première expérience. Ils expriment leur inquiétude.
Je suis inquiète parce que c'est ma première fois, mais je sais que je vais passer.
On a commencé les révisions, ça fait à peu près 3 mois comme ça. On fait des révisions en classe avec les maîtres et je m'exerce seule à la maison aussi.
Chaque jour, après les études, notre directeur nous réunissent pour qu'on fasse des petits exercices de chimie, de physique, de maths, ainsi de suite.
Je vais dire à mon camarade bonne chance à nous tous.
Dans plusieurs établissements, les programmes sont épuisés. Au groupe scolaire Bougari Wologem de Mopti, les enseignants assistent les candidats même pendant les week-ends, nous dit Abdoulaye Sy. Il est le directeur de Bougari Wologem second cycle 1.
Les maîtres sont vraiment présents. Les élèves les plus assidus aussi demandent aux maîtres ce qu'ils n'ont pas compris. Les maîtres reviennent là-dessus. Sinon, tous les programmes quand même épuisés parce que cette année, c'est une année spéciale, il n'y a pas eu de perturbations.
Ces examens se tiennent au moment où le délestage continue. Dans certaines familles, des parents ont trouvé des alternatives pour accompagner les candidats.
Nous avons décidé d'empêcher les enfants de sortir la nuit, donc pour qu'ils se couchent un peu tôt, pour qu'à partir de 5 heures, on les réveille. Ils commencent à faire les exercices, réviser les leçons.
Moi, j'allume la lampe, donc j'ai acheté ça pour qu'ils puissent vraiment apprendre leurs leçons.
Des pédagogues demandent non seulement aux candidats de réviser les leçons, mais aussi de traiter les anciens sujets. Ils souhaitent également que les programmes soient épuisés avant le jour de l'examen. Djibril Keïta est enseignant à la retraite à Yuwaru.
S'il arrivait qu'on donnait par exemple des matières dont les élèves n'ont pas vu, ils vont mal composer en ce moment. Je ne peux que les souhaiter bonne chance.
Notons que les épreuves physiques d'IDEF commenceront le 17 mai pour prendre fin le 31 mai 2024. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du 3 au 5 juin prochain.
La finale de la Coupe du Centre d'animation pédagogique CAP d'Ambidédi s'est jouée le 11 mai 2024 sur le terrain du poste. La finale a opposé l'équipe de Sony à celle de la commune rurale de Tafasirga. À l'issue du temps réglementaire, l'équipe de Sony a remporté la Coupe en battant son adversaire par 2-0. Selon les responsables du CAP, il s'agissait de renforcer la cohésion sociale entre les communautés à travers le football. L'international malien de 20 ans, Kamori Doumbia, évoluant à Brest, a reçu le trophée du plus beau but de la saison. C'était ce lundi lors de la remise des trophées UNFP à Paris, où plusieurs joueurs de Ligue 1 ont reçu des récompenses individuelles pour leur performance de la saison 2023-2024. Ce but a été marqué d'une superbe volée contre Lorient à la 17e journée du championnat de France de Ligue 1. Kamori avait également inscrit un quadruplé en 26 minutes dans cette rencontre. Une récompense saluée par des chroniqueurs sportifs maliens. Selon eux, cette distinction va aider Kamori dans sa carrière, mais aussi encourager les autres joueurs maliens à suivre l'exemple de ce dernier. Yacouba Tangara, journaliste sportif, joint au téléphone par Ousmane Yalibouli.
Je pense que le prix du meilleur but de la Ligue 1 française de la saison 2023-2024, reçu par Kamori Doumbia, milieu international malien, est bien mérité. Un but de sa saison. Je me demande même si son équipe de Reims n'a pas regretté son prêt au stade brestois parce qu'il a été très très influent dans les dispositifs de Brest cette saison car il a réussi à marquer 6 buts et délivrer environ 4 passes décisives. Je pense qu'en 25 matchs c'est quelque chose. Au-delà de ça, je pense que ce prix va lui mettre en confiance et ça va l'aider dans sa progression que ce soit en France ou ailleurs l'année prochaine. Au-delà de ça, ça peut inspirer d'autres joueurs maliens et de se dire que oui, ben, tout est lié au travail que tu fais. Donc, je pense que quand tu travailles très bien, tu vas récolter les récompenses.
Ainsi se referme à cette édition qui vous a été présentée par Mirana Kilomaiga. Merci de l'avoir suivi. La chambre nuptiale est l'un des grands moments du mariage au Mali. La femme est soumise à certains rituels avant, pendant et après cette étape du mariage. Selon les coutumes, ce rituel vise à préparer la femme à sa nouvelle vie d'épouse. Mais ces pratiques diffèrent d'une communauté à une autre. Comment évoluent ces coutumes et traditions de nos jours? Gardent-elles toujours leur sens? C'est le sujet du magazine Toutes les femmes du Mali, une réalisation de Fatmata Kodjo avec le concours de nos correspondants locaux.
La chambre nuptiale est une pratique ancrée dans plusieurs cultures. Elle consiste à initier la femme au processus du mariage. Certains comportements de la femme changent en plus de son régime alimentaire, comme nous expliquent ces femmes de Kai, Yoroso, Bankas et Tomia.
Je suis de Yoroso. Cette pratique, ça permet au couple de connaître davantage certaines réalités existant dans le mariage.
Le jour où se tiendra la chambre nuptiale, la famille de la mariée se réunit le lendemain pour rendre visite à leur fille. Lors de cette visite, la prise en charge est assurée par la famille du marié.
La conseillère matrimoniale Manyambaga a un rôle crucial et spécial à jouer dans cette phase pour la jeune dame. C'est elle qui assiste et guide les jeunes femmes pour la réussite de leur vie de foyer. Madame Tapo Bintafani, conseillère conjugale à Mopti.
Si le mariage est prévu le dimanche, la mariée est gardée en famille le jeudi pour être stable. La conseillère conjugale doit être à côté de la mariée pour lui donner des conseils. À part le mari et la conseillère conjugale, personne d'autre ne doit voir l'habit blanc de la mariée. Il est conseillé à la femme de manger uniquement des nourritures simples et légères.
La majorité des jeunes dames approchées ne voient pas d'un mauvais œil ces traditions qu'il faut d'ailleurs préserver selon elles. Mais d'autres pensent le contraire.
Les 7 jours dans la chambre nuptiale avec son mari, la vieille femme aussi qui est là, qui nous aide, pense que c'est une bonne chose.
Je suis prête à me soumettre à la pratique.
Déjà, ça n'existe pas chez nous, franchement. Moi, je ne le ferai pas, mes sœurs ne l'ont pas faite et mes enfants ne le feront pas.
Pour les traditionalistes, la chambre nuptiale n'est pas fortuite car elle inculque des valeurs à la femme qui est le socle de la famille et de la société. Fode Keita est traditionnaliste.
L'asseoir la fille pendant un certain temps, ça avait une grande importance chez nous. Ça, d'abord, reconnaître l'état de la fille, comment la fille se comporte dans la société. C'est elle qui donne des enfants. Et ces enfants-là, si un jour, elle trouve qu'elle n'a pas été trouvée dans une situation que la société voulait de lui, alors ça déshonore.
La religion musulmane n'est pas contre ces pratiques. L'imam Mamadou Djakoumba affirme que certaines d'entre elles contribuent à donner une éducation sexuelle à la femme. Selon lui, le manque d'éducation sexuelle est parfois source de tensions dans les couples.
Du point de vue de la religion, c'est quelque chose qui est autorisé. Tout est écrit dans les livres. Il faut de l'éducation. Le prophète et sa femme ont beaucoup parlé de ça. Les gens doivent l'apprendre et le comprendre. Nous n'avons pas formé nos enfants par rapport à ça, raison pour laquelle il y a beaucoup d'instabilité, d'incompréhension, d'infidélité dans les foyers. La chambre nuptiale n'est pas interdite en islam.
Le curé Dieudonné Samboro abonde dans le même sens. Cependant, pour ces religieux chrétiens, les mariés sont libres de vivre leurs noces en fonction de leur foi.
C'est le début même de leur vie commune. Et cela mérite beaucoup de respect. Au niveau ecclésial, il n'y a pas de durée de temps. Ce qui est important chez nous, c'est cette préparation au mariage, cet accompagnement après le mariage. Le reste, là, c'est chacun suit un peu sa tradition.
Notons que la chambre nuptiale n'existe pas dans la culture de certaines communautés au Mali, telles que chez les Bois et les Dogons.